Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Que le Dieu d'Israël vous bénisse richement, richement, richement. Je vais vous inviter à tourner avec moi les pages de vos Bibles dans Luc chapitre 13. Et nous allons lire du 1er au 5e verset. Luc chapitre 13, du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ?» parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous avons besoin que tu nous enseignes, selon qu'il est dit, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci encore une fois de plus pour votre présence et votre fidélité à Dieu. Je vous ai dit dimanche passé que dans mes réflexions, l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur une chose. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et cela est dû au fait que lorsque vous regardez aujourd'hui, dans la plupart des milieux chrétiens, dans la plupart de nos messages que nous plantons sur les sites, la plupart des messages ont l'allure d'être des conseils d'ordre psychologique plutôt que le message du royaume comme Dieu veut que ce message soit communiqué à son peuple. Notre objectif premier, en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous garantir la vie éternelle. Et tout ce que Dieu veut que nous puissions enseigner à son peuple, c'est ce qui l'aide à se placer sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous avons commencé dimanche passé une étude sur un thème important. Je sais que même si nous vivons au milieu d'un siècle où beaucoup de gens sont en train d'amener le folklore dans les choses de Dieu, mais il y a encore des hommes et des femmes qui aiment bien rester accrochés à la parole pure. Il y a encore des hommes et des femmes qui aimeraient bien voir l'éternité. Il y a encore dans ce monde des hommes et des femmes qui aiment bien entendre des vraies choses qui peuvent les aider à accéder à la vie. On peut venir vous caresser. On sait quel mot on peut dire pour caresser une personne. Mais si je vous caresse aujourd'hui, mon frère, ma soeur, demain, je ne serai plus là. Et à la fin, qu'est-ce que mes caresses ou mes belles paroles vont vous apporter? Rien. Par contre, ça va vous aider à vous corrompre et à voir l'enfer. L'enfer existe, frère. Si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, dites-lui que vous êtes menteur. L'enfer existe, le ciel existe, la vie éternelle existe. Nous avons parlé dimanche passé de la repentance. Et je vous ai dit que je devrais encore revenir aujourd'hui sur le même thème. Et que le thème central autour duquel gravite ce message, c'est ce que nous devons savoir au sujet de la repentance. Et le dimanche passé, le message était ciblé sur un aspect. Nous avons intitulé ce message « La repentance est une décision ». Nous avons lu dans Luc chapitre 15 la portion de l'Écriture qui nous parle de l'aventure du fils prodigue. Et à partir de ce texte, nous avons défini la repentance comme étant le sentiment profond de l'âme qui pose un jugement sur elle-même et décide de changer de voie. Mais avant de vous donner cette définition et de la commenter, je vous ai aidé à comprendre que le thème de la repentance, c'est l'une des choses fondamentales de l'enseignement biblique et de l'enseignement chrétien. Parce que le problème de l'homme avec Dieu se résume en un seul problème, c'est le problème de péché. Et le problème de salut ne peut passer que par la guérison du péché. Et la guérison du péché implique la repentance. Donc, la repentance, c'est l'un des sujets fondamentaux qui doivent être enseignés dans la foi chrétienne, l'un des sujets fondamentaux que chaque enfant de Dieu doit maîtriser. Je vous ai fait comprendre que lorsque vous observez le ministère de Jean-Baptiste, la repentance a fait l'objet de sa première prédication. Lorsqu'il parlait aux Juifs, aux Hébreux, il leur disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Lorsque vous regardez dans Matthieu 4, le premier enseignement, la première prédication de Jésus-Christ, il revient encore sur la repentance. Et il reprend quasiment la même chose en disant que « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quand vous voyez dans Marc chapitre 6, la première fois que le maître envoie les disciples en mission, il leur donne l'ordre clair, allez enseigner la repentance. Et lorsqu'ils sont allés en mission, c'était pour enseigner la repentance. Lorsque vous regardez le ministère de Pierre, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que quand il s'est levé pour parler aux Juifs curieux qui étaient venus, les observer au son des bruits qu'ils ont perçus. Lorsque Pierre a pris la parole, il leur a dit « Repentez-vous !» Lorsque vous voyez l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, c'est toujours « Repentez-vous !» Ceci nous enseigne, frères et sœurs, même si nous ne sommes pas des prédicateurs de la parole, à nous interroger pourquoi tous les ministres de la Bible reviennent sur ces thèmes. C'est un thème très important, frère. Vous trouverez « Repentez-vous et croyez ». Donc, la vraie foi doit d'abord être précédée par la repentance. « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » La vraie vie éternelle ne peut avoir lieu dans la vie d'une personne que si cette personne s'est repentie. Bref, la repentance, c'est l'une des portes qui nous ouvre le chemin du ciel. Et lorsque nous avons échangé le dimanche passé, en parlant de la définition de la repentance qui est le sentiment profond que l'âme pose sur elle-même et prend la décision de changer, je vous ai fait comprendre qu'il y a deux vérités importantes à retenir et que la vraie repentance commence par une introspection, par une prise de conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, sœur, tu ne pourras jamais plaire à Dieu si tu ne t'arrêtes pas une minute pour réaliser que ce que je fais ici n'est pas bon. Dieu peut te le révéler d'une manière ou d'une autre. Mais la parole de Dieu te le révèle déjà. Mais lorsque tu veux te repentir, comme nous avons vu l'exemple du fils prodigue, il a commencé par faire une descente en lui-même, par prendre conscience que j'avais pris une mauvaise décision. Ça, c'est impératif pour chaque enfant de Dieu. Et c'est là, ce n'est pas seulement pour une fois. La conversion, on s'est converti une fois. Bien sûr, il peut arriver que quelqu'un change de conversion. Mais on se répand chaque jour. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, on interroge ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle toutes les fois que vous priez, vous demandez à Dieu, pardonne-moi. Pourquoi il va te pardonner? Il va te pardonner quand tu prends conscience que j'ai menti aujourd'hui à un frère. J'ai été rebelle. J'ai trompé. J'ai mal fait. Alors je prends conscience et je demande pardon à Dieu. La deuxième vérité, je vous ai fait comprendre que la repentance est une décision. Une décision de changer. Sans avoir pris cette décision de changer, vous ne changerez pas, frère. Parce que le vrai changement, c'est d'abord le résultat de la décision que vous prenez au niveau de votre mental. Nous avons vu que ce jeune homme a pris la décision de changer et il a changé. Changer quoi? C'est changer tout dans la vie, frère. Changer vos habitudes. Des mauvaises habitudes. Des habitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Quand la parole de Dieu entre et vous touche, vous prenez la décision d'abandonner ces habitudes-là pour les remplacer par des habitudes que Dieu approuve. Ça, vous vous êtes répandu. C'est changer le style de vie. Comment est-ce que moi, je vis? Est-ce que le style de vie que je mène, c'est un style de vie qui plaît à Dieu, même si le monde m'acclame? Si je découvre que mon style de vie ne plaît pas à Dieu, mais repentir pour moi, c'est quoi? C'est abandonner ce style et adopter un nouveau style de vie qui lui plaît à Dieu. C'est ça la repentance. C'est changer quoi? C'est changer même ma mentalité. Ça peut être une mentalité héritée de ma tribu. Ça peut être une mentalité héritée de l'environnement. Mais la question que je vais me demander, est-ce que cette mentalité est approuvée par le Seigneur Jésus-Christ? Si la mentalité est approuvée par le Seigneur Jésus-Christ, elle est bonne. Si elle n'est pas approuvée par le Seigneur, je l'abandonne et j'adopte la mentalité que la Bible approuve. Ça, ça s'appelle aussi repentance. C'est de changer même mon système de pensée. On m'a enseigné à l'école que le monde ne relève pas de la création, mais c'est le fait de Big Bang. Est-ce que cet enseignement est bon? Non, cet enseignement ne tient pas debout. Je l'abandonne et je me tourne vers l'enseignement qui me dit que le Seigneur a créé le ciel et la terre. Ça aussi, c'est la repentance. Bref, l'unique chose que vous devez retenir, frères, sœurs, c'est que la repentance, c'est un changement. Et que pour arriver à ce changement, nous devons prendre la décision. Et je vous encourage, chaque jour, surtout par le temps qui court, à être toujours disposé à prendre des décisions. Parfois, on est engagé sur des mauvaises voies sans le savoir. Mais arrêtez-vous un moment. Dites, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Et le Dieu d'Israël va vous ouvrir les yeux, frère. S'il a ouvert les yeux de Paul pour qu'il comprenne que tout ce qu'il passait comme temps dans le pharisianisme ne pouvait pas le mener au salut, il est capable de vous ouvrir les yeux. Il est capable de nous ouvrir les yeux. Et de nous ouvrir les yeux jour après jour. Nous avons même dit, nous avons même fait comprendre que la repentance, c'est même le changement de voie. Ceux qui sont engagés sur la voie de la mort, sur la voie du fétichisme, sur la voie des corruptions avec les sciences occultes, ils ont remis les livres qu'ils avaient utilisés pour leurs pratiques magiques. Ils les ont remis aux apôtres, on les a brûlés. Changement total. Frères, sœurs, c'est ça le message le plus important aujourd'hui. C'est ça le message le plus important que j'aimerais graver dans votre cœur, avec mon âme tout entière. Quand je regarde personnellement ce qui se passe autour de nous, et quand je le regarde à la lumière de la parole prophétique, moi je suis certain que dans peu d'années, quelque chose va se passer sur la terre. Amen. Regardez ce qui se passe entre les grandes puissances. Regardez comment ils sont en train de jouer le jeu du chat et de la souris. Mais la Bible nous a dit qu'il y aura des guerres. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Un peuple contre un autre peuple. Tout ça, ce ne sont que les signes des temps de la fin. Regardez, dans les journaux, ce sont des hommes qui dansent nus, qui sont exposés, ce sont des... Bref, nous vivons des choses invraisemblables. Mais toutes ces choses nous lancent un message que le temps approche. Mais parce que le temps approche, nous devons toujours être sur nos pas, frères et sœurs, et nous préparer. Je vous dis sincèrement, vous êtes membres de l'Arche de Dieu, préparez-vous, préparez-vous. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais les signes parlent, les signes nous lancent des messages. La semaine passée, nous vous avons dit que la repentance est une décision. Aujourd'hui, nous vous disons que la repentance est une exigence fondamentale pour le salut. Dans le texte que nous venons de lire, nous apprenons qu'un jour, un groupe de Juifs est venu rencontrer Jésus-Christ pour l'informer que certains pèlerins galiléens qui sont venus de la Galilée pour venir célébrer la fête de Pâques à Jérusalem ont été massacrés par les soldats de Pilate au moment même où ils étaient en train d'égorger leurs sacrifices à immoler à Dieu. C'est pourquoi le texte reprend l'expression qui dit que Pilate a mêlé le sang des Galiléens avec le sang de leurs sacrifices. C'est-à-dire, il les a fait massacrer. Lorsqu'ils ont apporté cette information à Jésus-Christ, qui était préoccupé à annoncer l'évangile du salut, Jésus aperçut qu'ils venaient le distraire. Et au lieu de répondre à leurs préoccupations, la Bible dit qu'il les a regardés et il leur a dit ceci. Croyez-vous que ces Galiléens qui viennent d'être massacrés puissent être de plus grands pécheurs que tous les Galiléens que Pilate a laissés en vie? Et il répond lui-même à sa question. Il dit, non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir également. Arrêtez-vous là, frère. Ses amis ne lui ont pas posé la question sur la repentance. Ses amis ont voulu tout simplement lui fournir une information. Il était important que le maître soit informé de ce qui s'est passé dans la ville de Jérusalem alors qu'il s'y trouvait. Mais voilà que Jésus-Christ ramène son auditoire à l'essentiel de son message. Il ramène son auditoire au message pour lequel il a quitté le ciel, au message de la vie éternelle. Frères, sœurs, il n'y a pas de message dans la Bible. Il n'y a pas de message pour lequel nous croyons. Nous croyons parce que nous savons que le ciel existe et parce que nous voulons un jour gagner la vie éternelle. C'est ça l'essentiel de notre foi. Et Jésus-Christ ramène ces gens sur l'essentiel de son message. Et il leur dit ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent hériter le royaume au lieu de perdre leur temps à rapporter les informations diverses. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à rapporter plusieurs types d'informations. Mais je vais leur dire que ces informations-là, aux yeux de Dieu, ne sont pas utiles. Il n'y a qu'une seule information qui est utile, c'est aider votre frère ou votre soeur à se placer sur le chemin qui mène à la vie. Amen. Jésus leur dit ceci, que frère, écoutez-moi bien. Ces Galiléens-là n'ont pas été le plus grand pécheur de l'humanité. Il y a encore des gens, des même plus pécheurs que ces Galiléens qui sont restés en vie. Mais faites attention, si vous ne prenez pas soin de vous repentir, vous allez mourir aussi. Et le maître leur ajoute un deuxième exemple. Il dit ensuite, ne vous imaginez pas que ces 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée et qui sont décédées toutes, ne vous imaginez pas que ces gens ont été les plus grands pécheurs de l'humanité. Et il leur répète la même chose. Vos frères, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir également. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît quelles sont tes voies. Et toi-même, tu sais aussi quelles sont tes voies. Dieu t'a touché, il t'a appelé à la lumière de l'évangile parce qu'il est disposé à te donner la vie éternelle. Mais il faut te repentir, frère. Parce que si tu ne te repens pas, c'est-à-dire si tu ne changes pas, si tu n'abandonnes pas la mauvaise vie que tu mènes, si tu n'abandonnes pas les mauvaises petites choses que tu es en train de faire à gauche, à droite, tu vas rater le royaume de Dieu. C'est l'unique message que j'ai à te dire ce matin. C'est ça le message que Dieu a pour toi ce matin. Je peux ou ne pas commenter, je peux même m'arrêter là, mais je sais que l'Éternel va faire quelque chose. Mais je continue. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, et nous les connaissons tous, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez une chose, avant de parler de la vie éternelle, on parle d'abord de la perdition. On vous dit que ceux qui vont croire en Jésus-Christ ne puissent pas périr, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. Oui, Dieu a aimé le monde. Dieu aime encore le monde. Dieu t'aime encore, mon frère, ma soeur. Il a manifesté son amour d'abord en créant l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu est amour. Il a créé l'homme pour que l'homme soit bien, pour que l'homme soit dans le bonheur total. Il a créé l'homme comme étant le chef d'œuvre de sa création. Il a préparé la nature, il a préparé le jardin pour l'homme. Et non seulement il a créé l'homme, il lui a créé aussi la femme pour le rendre davantage heureux. Mais comment est-ce que l'homme a répondu à l'amour de Dieu? La Bible nous dit que l'homme a tourné le dos à Dieu pour obéir au diable. Et à partir de ce moment, il s'est coupé de Dieu parce que la vision de l'homme se trouve entre les mains de Dieu. Et lorsque l'homme se coupe de Dieu, il laisse la vision de son bonheur entre les mains de Dieu. Et à partir de ce moment, l'homme s'est engagé sur le chemin de la souffrance. Et il a entraîné avec lui l'univers entier sur le chemin de la corruption. Mais Dieu qui nous aime a manifesté encore son amour en envoyant Jésus-Christ comme un pont jeté sur l'abîme pour permettre encore à l'homme de se reconnecter avec Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ comme étant la solution de Dieu à la rébellion de l'homme. La solution de Dieu à la rébellion de l'homme. La solution de Dieu à la rébellion de l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais là, la Bible nous dit que quiconque va croire en Jésus-Christ, il va se réconcilier avec Dieu. Et dès qu'il se réconcilie avec Dieu, c'est qu'il a droit à la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien. Amen. Dieu a une vision pour ta vie. La vision de Dieu ne se limite pas à ce que tu vas expérimenter dans la ville de Montréal. La vision de Dieu va jusque dans l'éternité. Mais cette vision a été trahie par la décision de l'homme. Par ta décision. Ne dis pas que c'était Adam, frère. Non, non. Même si toi tu étais à la place d'Adam, tu ferais la même chose. Peut-être que même que ce que tu fais aujourd'hui, c'est plus que ce que Adam avait fait. Donc toi aussi, tu as trahi l'amour de Dieu. Et pour avoir trahi l'amour de Dieu, tu t'es sectionné du bonheur que Dieu a pour ta vie. Mais Jésus-Christ est arrivé, il faut que toi tu l'acceptes. Mais voilà la chose, la Bible nous dit que pour s'approcher de Jésus-Christ et l'accepter, il faut se repentir. Lorsque les Juifs se sont approchés de Jésus-Christ, par le simple fait de s'approcher de Jésus-Christ, ils avaient l'obligation de se repentir. Voilà pourquoi Jésus leur parle de la repentance. Même si vous vous approchez pour lui raconter n'importe quoi, vous devez être disposé à vous repentir, mon frère, ma soeur. Ceci nous prouve que la repentance, c'est ça l'exigence fondamentale, c'est ça la clé pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Raison pour laquelle Jean-Baptiste dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » C'est-à-dire que la repentance va vous permettre de croire en Jésus-Christ et d'avoir accès au royaume. Jésus revient, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance va vous aider à croire et avoir la vie, à croire et à entrer dans l'éternité avec Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'univers. La Bible raconte dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que lorsque Paul est arrivé à Athènes, il a été surpris par la quantité phénoménale des idoles qui peuplaient les rues de la ville. Il a attrapé une colère spirituelle à la vue de ces idoles. Athènes était la métropole de l'époque, une grande ville, semblable à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui Montréal, semblable à New York, semblable à Paris, semblable à Bruxelles. Mais ces rues étaient peuplées. Des idoles. Je vais vous dire, frère, qu'à l'instar de la ville d'Athènes, nos grandes métropoles du siècle présent, sont peuplées des idoles que nous voyons et que nous ne voyons pas. Nos grandes métropoles sont peuplées de péchés en quantité industrielle. Il suffit tout simplement de descendre dans le rue de Montréal, vers le métro Baudry, vous allez sentir l'odeur du péché. Vous allez sentir l'odeur de la violence. Vous allez sentir l'odeur de la corruption. On m'a appris que dans certaines villes de l'Europe, lorsque vous entrez en plein jour, vous trouvez des sœurs exposées comme des mannequins, mais nues comme des vers de terre. Ça, ça n'a pas existé à Athènes, à l'époque de Paul. Mais par contre, cela avait déjà beaucoup inquiété Paul en son temps. Et si nous gardons la même logique, nous devons être beaucoup plus inquiétés que Paul. Lorsque vous rentrez dans les rues de nos grandes villes, vous trouvez des photos des êtres nus exposés, des bars des danseurs, des bars des danseuses, des violeurs, des escrocs, des menteurs, même des menteurs à la télévision, même des mensonges publics. La plupart des informations que nous écoutons sur nos chaînes de télévision ne sont que des mensonges ou des mensonges modifiés. Lorsque vous tournez partout, il y a de la violence. Mais la Bible nous dit que quand Paul a été touché à la vue de ces idoles qui peuplaient la ville d'Athènes, Paul a dit aux Athéniens une chose, que Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, il exige maintenant que tous les hommes se répandent. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu a fixé un jour, frère, où le monde va être jugé. Le monde ne restera pas éternel. C'est la vérité. Dieu a fixé un jour où le monde va être jugé. Mais avant que le monde ne soit jugé, Dieu demande à ses enfants de se repentir, c'est-à-dire de tourner le dos à ce mode de vie que Dieu a rejeté depuis le jardin d'Éden. Et ce qui est encore extraordinaire pendant notre génération, c'est que tous les péchés qui sont dans les grandes métropoles se sont invités dans les églises chrétiennes et ont placé beaucoup de chrétiens au bord de l'enfer. Je répète, tous les péchés qui sont dans le monde ont été importés dans l'église de Dieu. On trouve dans l'église de Dieu des homosexuels. Alors que la Bible est très claire, la Bible ne parle pas en parabole, la Bible est très claire que lorsqu'un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination. J'accepterai que le monde tolère ces choses parce que le monde n'est pas soumis à la loi de Dieu. Mais nous, nous sommes les enfants du royaume, nous sommes soumis à la loi de Dieu. Lorsque j'ai devant moi un pasteur qui me dit qu'il est homosexuel, il est placé au bord de l'enfer. Il doit le savoir qu'il s'est placé lui-même au bord de l'enfer et qu'il va finir la course dans l'enfer. Ces péchés du monde se sont invités dans l'église où on trouve des ministres de Dieu qui sont devenus adultères, qui sont devenus impudiques, infidèles. Frères, sœurs, écoute-moi bien. S'il y a un homme de Dieu qui s'appelle homme de Dieu ou un frère dans l'assemblée qui t'a invité, jeune sœur, pour coucher avec toi, si tu as accepté, repens-toi très rapidement parce que tu t'es placé sur le chemin de l'enfer. Et si tu n'as pas accepté, dis-lui, frère, repens-toi parce que tu vas mourir. Même s'il est ton pasteur, comment il peut être ton pasteur tout en continuant à être impudique? Parfois, vous venez dans l'assemblée, vous sautez, vous criez, alléluia, il y a de l'onction. Non, frère, il n'y a pas de l'onction, ça c'est l'onction de la mort. Il n'y a pas seulement de l'onction de la vie, il y a aussi l'onction de la mort. Parce que Dieu ne peut pas se contredire de sa propre parole. Amen. Dieu dit, et il est clair, que les impudiques ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Frères, sœurs, les choses de Dieu ne sont pas les choses de fanatisme. Donc, je ne veux pas adhérer à une église ou suivre un ministre de Dieu parce que je l'aime. Non, ne venez pas à l'arche parce que vous m'aimez. Non, ne m'aimez même pas. Mais venez à l'arche parce que vous aimez Dieu. Parce que c'est Dieu qui va vous donner la vie éternelle, frère. N'allez pas à l'église parce qu'il y a du mouvement. Ne venez pas pour le mouvement, frère. Le mouvement va passer. Pensez à votre éternité, frère. Si toi, pasteur, tu as passé un quart de ta nuit dans une loge de francs-maçons, et le matin, tu veux te lire la Bible pour empêcher, pour enseigner aux gens le royaume de Dieu. Quel royaume de Dieu tu leur enseignes, frère? La Bible est bien claire que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est impossible. Et la Bible est claire que cette lumière est la véritable lumière en parlant de Jésus-Christ. Qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Ce n'est pas que vous entrez dans une loge la nuit et on vous dit que vous allez recevoir la lumière. C'est quelle lumière? Puisque la véritable lumière éclaire tous les hommes, éclaire même les pécheurs pour leur donner la vie. Mais par le fait qu'en tant que ministre de Dieu, tu te retrouves dans ces choses, tu y es au bord de l'enfer. Comprends-le très bien. Tu y es au bord de l'enfer. Un ministre de Dieu escroc, un chrétien escroc. Nos frères, les escrocs ne peuvent pas être admis dans le royaume. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici pour nous préparer à la vie éternelle. Et mon mandat à moi, c'est de vous aider à vous préparer à la vie éternelle. Ouvrez les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, tous, que vous soyez pasteur, que vous soyez fidèle. Dieu vous annonce que vous devez vous repentir. Mais arrêtez-vous. Regardez dans votre vie, il y a des choses à vous repentir. Si tu as dans ta maison les livres, rose-croix, franc-maçon, des fétiches, des ceci, cela, que ça c'est les protections. Non. Tu dois te repentir, frère. Si tu es un jeune, tu n'es pas marié, mais tu es en train de vivre avec une fille qui n'est pas mariée non plus, ce que tu commets là, ça s'appelle la fornication. Et la fornication ne conduit pas au ciel, elle conduit à l'enfer. Mais écoute, frère, tu aimes la fille, mais épouse-la. Épouse-la, c'est clair. Tu vas rater le royaume de Dieu pour un plaisir de 2 minutes. Et tu vas faire rater le royaume de Dieu à cette pauvre fille. La repentance, frère, nous sommes chrétiens. La repentance, c'est l'exigence fondamentale qui va nous aider à voir le salut de Dieu. Nous devons voir le salut de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, si toi, tout le monde que tu regardes, il est sorcier. Tout le monde que tu regardes, il est menteur. Et non seulement tu t'arrêtes à ça, tu vas le rapporter à d'autres personnes. Comme si tu es allé visiter le sorcier la nuit, tu l'avais vu toi, mais comment toi tu l'as vu? Puisque pour être un témoin crédible, il faut me dire ce que toi tu as vu. Karamiri disait que si un poisson sort de l'eau et vous dit que le crocodile a les yeux rouges, est-ce que vous allez le croire? Il me répond en disant, oui, vous devez le croire, parce que c'est le poisson qui vit dans l'eau, c'est lui qui a vu le crocodile. Si toi tu me donnes le témoignage, frère, il ne me parle pas de la révélation. Tout le monde voit des révélations, frère. Non. Il y a des faux témoins dans la Bible, il y a des vrais témoins. Donc, dis-moi que toi tu as été là, tu y as vu. Et tu viens témoigner, je vais te croire, mais tu me diras comment toi tu es arrivé là-bas. Frères, sœurs, nous pouvons rire, nous pouvons sourire, mais l'heure est grave pour l'église chrétienne. Nous devons apprendre à changer, même nos bouches. La Bible dit que celui qui va réussir à maîtriser sa langue, n'est-ce pas? Il réussira à maîtriser son corps tout entier. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de maîtriser ta langue, tu ne peux pas maîtriser tes mains, tu ne peux pas maîtriser tes pieds, tu ne peux pas maîtriser ton sexe, parce que ta langue, tu ne l'as pas encore maîtrisée. Et maîtriser la langue, c'est quoi? C'est dire, je me dis, ce que je vais dire là, ce que j'en suis sûr. Si je ne suis pas sûr, que Dieu m'en garde, je me tais. Frère, si nous le faisons nous tous ici, Dieu va être glorifié sur la terre. Mais si toi tu parles, la Bible dit que Dieu sans tenir compte de tant d'ignorance. Tu as parlé hier. Dieu merci, tu n'es pas encore en enfer. Tu peux te sauver et entrer au ciel maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir. Je parlais. Je parlais. Je dis ceci, je dis cela. Même ce qui est faux, qui est vraiment faux prouvé, mais tu es en train de le rapporter. C'est une erreur. Jésus a dit à ces gens, ne pensez pas que ces Galiléens ont été les plus pécheurs de tous les hommes. Peut-être même que ce que vous dites est vrai. Mais est-ce que c'est cela ce qui va vous sauver? Non. Dieu ne va pas vous sauver parce que vous lui avez rapporté que Dada a fait ceci, Dada a fait cela. Non, non. Dieu va vous sauver si vous vous répandez. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation? Dieu va vous sauver si vous vous répandez. 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 Le jour du Seigneur arrive à grands pas. Comprends, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas d'autre choix que de te repentir. Comprends, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas d'autre choix que d'abandonner tout ce qui est mauvais. La Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, Noé a parlé comme je parle là. Il a dit aux gens, Dieu va détruire ce monde par le déluge. Repentez-vous et Dieu va vous sauver. Les gens ont continué à faire du mal. La tradition raconte même qu'il y en a qui sont allés faire caca dans l'arche que Noé construisait pour se moquer de lui. Mais quand le temps est arrivé, cette génération a été détruite. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Lot est sorti. Il a parlé à ses gendres. Il leur a dit, jeunes gens, sortez de ces milieux. Dieu va décimer cette ville. La Bible certifie que ces gendres ont pensé que le vieux est en train de blaguer. Peut-être que toi, tu es de ceux, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dis que non, non, on blague. La fin du monde ne va pas être demain. Dieu n'existe pas. Non, frère, n'agis pas comme les gens du temps de Noé. Répends-toi. Moi, je vais t'inviter à te repentir aujourd'hui. Je vais t'inviter vraiment à te repentir. Le ciel est à ta portée demain. Mais tu dois te repentir si tu veux entrer au ciel. Il n'y a pas de message plus que ça. Alléluia. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Je marchais un jour sur le chemin, je marchais. Oh,
chaleur, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt que ce sera là.
Ouvre ton cœur, dis à Dieu, qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de voir tous. Le sang de Jésus a été versé pour nous tous. Frère, il n'y a pas de plus grand cadeau que Jésus est venu offrir à l'humanité, si ce n'est que la vie éternelle. Tenez vos mains dans la main. Prie Dieu pour ton frère à côté de toi. Prie Dieu pour ta soeur. Dis Seigneur, fais grâce à mon frère. Ce jour-là, lorsque nous marcherons dans les couloirs du ciel, j'aimerais le voir. Parce que ton sang a été versé pour nous tous. Quel servir à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et de bon au voir, prie frère, prie pour le nom de l'église que tu ne vois pas. Le temps sont mauvais, Christ est à la porte, le jour du jugement avance à grands pas. Mais nous voulons être de ceux-là qui vont être sauvés. Au nom de Castel, je te le dis.
Avec l'assemblée et nous méditons ce que Dieu a donné comme inspiration à ce frère pour ce cantique merveilleux et que ce cantique puisse être aussi ta prière, qu'un jour tu puisses voir le couloir du ciel. Alléluia.
Thank you. dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repars-toi. Seigneur, nous voulons te voir face à face le jour où tu vas apparaître sur la nuée. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, à rester à l'écoute de ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chaque homme, chaque femme qui est venu en ces lieux. Use de ta bonté envers nous. Aide-nous à rester dans le sillage de ce que tu aimes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.